rendez-vous de la MIF, présenté par le docteur Jonathan Taïeb.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 6 février 2019 et c'est un programme chargé qui nous attend ce soir pour cette nouvelle émission des rendez-vous de la MIF, l'émission des médecins israélites de France. Alors au programme pour cette émission, en première partie, nous serons en ligne avec le professeur Bernard Lobel, médecin urologue, membre du comité d'honneur de la MIF et qui a été pendant de nombreuses années membre actif de l'Israel Medical Association. Nous parlerons avec lui médecine israélienne. En seconde partie, nous serons en ligne avec le docteur Yves Elbez, médecin cardiologue, directeur médical de l'Institut Cœur Paris Centre, ICPC, et qui est auteur d'un ouvrage « 5 minutes avant l'infarctus » aux éditions Marabout. Et puis enfin, en dernière partie, comme d'habitude, elle sera consacrée aux dernières manifestations de notre association et aux futurs événements qui animeront prochainement la MIF. Voilà, sans plus attendre, nous sommes en ligne avec le professeur Bernard Lobel pour parler médecine israélienne. Bonsoir Bernard.
Bonjour à tous.
Alors nous allons parler aujourd'hui d'hystérectomie, hein, une procédure chirurgicale qui consiste à retirer l'utérus, hein, dans la plupart des cas pour des raisons carcinologique, hein, de cancer, de risque de cancer, hein, du col de l'utérus par exemple, du corps utérin ou de l'ovaire. Et vous allez nous parler, cher Bernard, d'une enquête de l'OCDE qui a été publiée en 2014 et qui a regardé des différents taux d'hystérectomie dans plusieurs pays et notamment en Israël.
Oui, l'OCDE avait fait une enquête il y a déjà quelques années pour vérifier qu'il y avait bien des différences dans la réalisation de l'ablation de l'utérus dans différents pays, dont Israël. Et Israël, l'année passée, s'est intéressé directement au taux d'hystérectomie réalisé dans le pays en variation selon les régions d'Israël. C'est l'hôpital Shaaretz Tzedek et le service de gynécologie associé au ministère de la Santé qui s'est intéressé. Alors j'ai appris avec intérêt que Israël était divisé en 7 régions. Et ce que l'on peut constater globalement, c'est que depuis une dizaine d'années, le taux d'hystérectomie en Israël a baissé. Néanmoins, il y a des variations régionales évidentes, et ces variations dans l'ablation de l'utérus vont dépendre d'abord de la richesse en gynécologues et chirurgiens, ensuite de l'état socio-économique de la région, et enfin le niveau religieux de la population. Donc il existe bien des différences dans les taux d'hystérectomie et le seul élément positif, c'est la réduction du nombre de ces hystérectomies depuis quelques années.
Et réduction qui est causée par par le progrès de la médecine,
absolument,
par la diminution des indications ?
L'exploration permet de diagnostiquer beaucoup plus tôt les affections et permet des traitements plus localisés, évitant ainsi d'enlever tout l'utérus.
On va parler à présent du mélanome ou cancer de la peau en Israël, hein, puisqu'une étude israélienne montre que sa population n'est pas homogène face au risque de ce cancer qui touche près de 9% d'Israéliens, Bernard.
Très intéressante enquête réalisée par l'hôpital Rambam de Haïfa sur le mélanome malin en Israël, et l'hôpital constate que il y a plusieurs types de populations en Israël. On s'en doutait bien entendu, mais il y a les populations venues d'Europe centrale, les Ashkénazes à la peau plutôt claire, il y a les Séfarades venus d'Orient ou d'Afrique du Nord avec une peau un peu plus sombre, et enfin il y a les Palestiniens avec une peau beaucoup plus sombre, en particulier la population arabe. Est-ce qu'il y a des différences dans ces trois populations? Certainement. En particulier, il y a une population nouvelle d'immigrants venant de l'ex-Union soviétique qui ont, eux, tout particulièrement la peau claire. Et c'est dans cette population que l'enquête a montré qu'il y avait le plus de mélanome. Alors on peut expliquer évidemment devant ces peaux claires sous le soleil d'Israël la multiplication de ces lésions, mais la différence qui existe avec les populations venant d'Union soviétique, 32% des mélanomes malins retrouvés en Israël sont dans cette population contre 9% dans la population générale, on peut penser qu'il y a là un facteur de risque évident qui nécessite que l'on s'intéresse de très près à cette population pour faire un diagnostic précoce. En effet, mélanome dans ces populations venant d'Union soviétique est plus sévère, diagnostiqué plus tard et beaucoup plus toxique au plan de la mortalité qu'il entraîne.
C'est très intéressant en tout cas Bernard, on aura d'ailleurs l'occasion de parler du mélanome lors de notre prochain congrès à Tel Aviv, le 29 et 30 mai prochain. Troisième point, troisième étude Bernard, avec une étude israélienne sur un sujet de société à l'heure des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Google. Il y a une étude israélienne qui a été réalisée sur des candidats à la chirurgie esthétique et cette étude donne des résultats assez étonnants.
Effectivement. Les Israéliens sont très intéressés par les réseaux sociaux, comme tu as dit, Instagram, YouTube et Facebook. Mais les Israéliens sont aussi très intéressés par la chirurgie esthétique. Et donc, ils interrogent volontiers ces réseaux pour avoir des informations. Et une enquête réalisée, là encore, par le département de chirurgie esthétique de l'hôpital Rambam de Haïfa, a montré que les renseignements que l'on pouvait obtenir sur ces réseaux sociaux étaient loin d'être homogènes et surtout intéressants. En effet, si sur Instagram, à peu près deux tiers des informations ont été prises auprès de chirurgien esthétique, sur les autres réseaux, il s'agit de moins de 20% de cette information venant d'experts, alors que le reste vient soit de publicité pour favoriser l'un plutôt que l'autre des institutions qui réalisent la chirurgie esthétique, voire des structures purement financières qui essayent d'attirer une clientèle chez eux. Et donc, il apparaît qu'il faut faire très attention aux informations obtenues sur les réseaux sociaux concernant la chirurgie esthétique et ne s'intéresser que plutôt aux informations qui sont données par les patients eux-mêmes, qui là sont des réalités informatives, plutôt que dans les généralités qui sont données par des structures plus financières que médicales.
C'est assez intéressant. Merci beaucoup Bernard, en tout cas pour ces trois études qui mettent en valeur les études israéliennes sur la recherche médicale notamment. Je te remercie et puis on se voit très bientôt au congrès de Tel Aviv.
À bientôt.
À bientôt. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de notre émission et nous sommes en ligne avec le docteur Yves Elbez, médecin cardiologue, directeur médical de l'Institut Cœur Paris Centre, ICPC, et qu'on connaît bien d'ailleurs dans le tissu associatif puisque c'est le fondateur de l'AFICARDIO, association franco-israélienne de cardiologie. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Alors nous allons parler de votre dernier ouvrage, 5 minutes avant l'infarctus, aux éditions Marabout. Un livre didactique qui insiste notamment sur la prévention et le dépistage des maladies cardiovasculaires et qui offre de nombreuses clés pour se protéger, par exemple, des facteurs de risque cardiovasculaire avec des messages assez clairs. La santé de notre cœur passe par un mode de vie équilibré, la richesse de nos relations avec les autres ou encore avec l'environnement dans lequel nous vivons. Pour commencer, docteur Yves Elbez, le salut cardiaque passe-t-il vraiment par la prévention et le dépistage ?
Oui, merci de me poser cette question. C'est peut-être la question fondamentale. Depuis plus de 30 ans que je fais ce métier passionnant, j'ai vu des progrès techniques extraordinaires et qui sont peut-être à l'aube d'une évolution technologique remarquable avec l'intrusion de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Et on soigne de mieux en mieux les gens qui ont eu une maladie, particulièrement une maladie cardiaque. Mais le problème vient du dépistage précoce des gens qui vont faire une maladie cardiaque et vous allez comprendre pourquoi. En France, grosso modo, chaque année, il y a entre 120 et 140 000 infarctus du myocarde. Près de la moitié de ces infarctus du myocarde surviennent chez des gens qui n'ont pas eu le moindre symptôme préalable. On parle d'infarctus du myocarde inaugural. je suis en bonne santé et je fais un infarctus du myocarde. Et là, le côté dramatique de la chose, c'est que près de la moitié de ces infarctus inauguraux se soldent par une mort subite. Donc, à la louche, comme ça, on va dire 120 000 infarctus, 60 000 infarctus inauguraux et 30 000 morts subites. Malheureusement, on ne sait pas réanimer ces morts subites, simplement dans 2 à 3 % des cas, c'est-à-dire qu'on va sauver quelques 800 à 900 personnes. Donc ça veut dire que chaque année, il y a 30 000 morts subites. Et la question que vous posez, est-ce qu'on aurait pu les prévenir? Oui, on aurait pu les prévenir si on avait dépisté les gens qui étaient susceptibles de faire une mort subite. Et c'est tout l'enjeu de la prévention cardiovasculaire qui suppose un triptyque, dépister précocement les lésions débutantes, prédire le risque cardiovasculaire. Tout le monde ne fait pas un infarctus du myocarde, il y a des gens qui sont prédisposés. Et enfin, mettre en route des mesures préventives. Et aujourd'hui, on a des mesures préventives extraordinairement efficaces chez ces gens qui sont habilités ou du moins qui vont faire un infarctus du myocarde. C'était d'ailleurs l'enjeu et on va dire la métaphore du titre de mon livre, 5 minutes avant l'infarctus. Si on arrive 5 minutes avant l'infarctus, eh ben, on va éviter l'infarctus et une fois sur deux, une mort subite.
Donc privilégier les check-up et effectivement les personnes qui sont suivies par un médecin ont moins de chances de faire un infarctus.
Oui, il y a plusieurs choses. Hein. Prédire le risque, c'est mesurer le risque cardiovasculaire. Je vais vous donner deux exemples que vous allez comprendre. Prenez une jeune fille de 20 ans qui habite l'Auvergne, par exemple, qui est une sportive de haut niveau, dont les deux parents ont vécu 100 ans, qui ne fume pas, dont la passion est le surf et la pêche à la ligne. Voilà, elle n'a pas de soucis, elle va bien. Son risque cardiovasculaire sur les 10 ans qui viennent, il est voisin de zéro. D'accord ? Prenez maintenant un homme de 50 ans, alors, tous les malheurs du monde. Voilà, il est fumeur, il mesure 1m60, il pèse 120 kg, il a un tour de taille à 115. Son épouse vient de le quitter, il a perdu son travail. Bref, il a un cholestérol au plafond, un début de diabète, etc. Il a un risque cardiovasculaire majeur. D'accord ? On va dire comme ça, il a un risque cardiovasculaire de près de 30% de faire un infarctus sur les 10 ans qui viennent. Ce monsieur est à risque. C'est un risque, c'est une statistique. Il n'a eu aucun accident. Et il n'est pas traité. Mais bien entendu, on sait que l'infarctus est imminent. Donc chez cette personne à risque cardiovasculaire élevé, il faut mettre en route une prévention ciblée, facteur par facteur, et très intensive. C'est-à-dire on va prendre chaque facteur de risque, le diabète, le tabac, le surpoids, l'hypertension artérielle, le cholestérol, etc. On y reviendra si vous le voulez bien. Et puis, essayer de les diminuer au maximum. Alors, il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, on verra ça, puis d'autres sur lesquels on ne peut pas agir, évidemment, le temps qui passe.
D'ailleurs, Yves, dans cet exemple, par exemple, tu as parlé d'un patient de plus de 60 ans qui a des problèmes de stress, notamment. Donc là, on a parlé des facteurs de risque purement scientifiques, mais tu parles beaucoup dans ce livre d'empathie, de bonnes relations comme facteur de protection cardiaque. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, bien entendu. Ça, c'est mon cheval de bataille. Je te remercie de... On se tutoie, apparemment.
Maintenant, ça y est, on est passé au tutoiement, là, ça y est.
On ne peut plus faire semblant.
Bah, c'est un facteur de bonne relation, Yves. Hein.
Voilà, exactement. Bon, voilà. Donc, oui, alors, le cœur, la cardiologie, tout ça, ça rime avec des vertus comme le courage, la bonté, la joie, la gaieté, l'amour, la franchise, que sais-je, la générosité. Et puis l'absence de cœur avec la dureté, la tristesse, etc., la mesquinerie. Et globalement, et on l'a prouvé, quand on a un bon cœur, on a aussi un cœur qui marche mieux. Alors, il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont dévoilé les relations qui existent entre l'empathie, la longévité et la protection cardiaque. La plus intéressante, c'est une étude, excusez mon anglais, la Harvard Adult Study. Bon, l'étude des adultes de Harvard. En fait, c'est une étude qui a été initiée en 1938 et qui avait suivi une population d'un peu plus de 700 hommes qui vivaient à Boston. On les a suivis donc pendant des dizaines d'années. Et on a relevé tous les critères possibles, des critères biologiques, mais aussi des critères sociaux, des critères familiaux, etc. etc., etc. On les a vraiment suivis pas à pas au cours de ces dizaines d'années. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Le psychiatre Robert Waldinger, qui est aujourd'hui en charge de cette étude, a répondu très simplement. Après plus de 75 ans d'études, alors il répondait précisément en 2013, hein, ce dont je vous parle, les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé, c'est tout. Et il ressort que le célibat, l'isolement sont des critères négatifs pour le cœur, alors que la relation humaine, quand elle est bonne, qu'elle soit conjugale, familiale, professionnelle, amicale, participe au sentiment de bonheur et favorise une longue vie en meilleure santé.
D'ailleurs, voilà, on a reçu d'ailleurs, excuse-moi de te couper Yves, le professeur David Kayat dimanche dernier, et finalement, quand tu me parles de ces critères-là, on retrouve ces critères dans le cancer, par exemple, dans les facteurs de prévention du cancer.
Oui, oui, bien entendu. Là, je parle de longévité, donc c'est tous azimuts. Et quand on sait que les deux plus grands fléaux de morbi-mortalité sont tout d'abord la mortalité cardiovasculaire et ensuite la mortalité par cancer, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et ce qui prédit le mieux comment on va vieillir et comment on va bien vieillir, c'est l'importance des relations qu'on a avec les autres et la qualité des relations qu'on a avec les autres. Le pire, c'est la personne qui est isolée et qui a quelques relations et ces relations sont conflictuelles. Au contraire, les gens qui vivent dans un milieu social, familial et amical très développé, avec des relations de bonne qualité, eh bien, ils vivent mieux et plus longtemps, que ce soit sur le plan cardiovasculaire ou cancérologique, ou toute morbidité confondue de toute façon.
D'accord, donc quand la relation humaine est bonne, elle participe à une meilleure santé. Merci Yves. J'ai une autre question, puisque ce livre est en quelque sorte un livre de cardiologue pour les nuls, on apprend vraiment beaucoup beaucoup de choses, hein. je vous le conseille chers auditeurs, mais c'est également les mémoires d'un cardiologue cardiaque, puisque vous diffusez de nombreux messages au travers d'expériences que vous avez personnellement vécues. Est-ce que vous pouvez nous raconter le jour où le cardiologue est devenu cardiaque?
Oui, puisqu'on rentre dans mon intimité. Je vois que vous êtes passé au vouvoiement, donc on va essayer de slalomer entre le vouvoiement et le tutoiement.
Voilà.
Voilà. Mais nos relations sont toujours bonnes, Jonathan.
Je vais te tutoyer la prochaine question.
D'accord. Donc en fait, oui, alors bon, je livre un peu de mon intimité, mais de toute façon à nos auditeurs, mais puisque je l'ai écrit, donc il n'y a pas de souci. C'est une histoire drôle, puisqu'elle se termine bien, et elle se termine bien puisque je suis là pour vous la raconter. Le jour des 50 ans de mon épouse, j'ai voulu faire une surprise et j'ai invité sa sœur qui habitait Berkeley, sa meilleure amie qui habitait Tel Aviv et l'autre meilleure amie qui habitait à l'autre bout du monde. Elle devait se réunir le soir de ce jeudi, du jeudi 1er octobre de cette année-là.
La bonne famille juive.
Pardon ?
La bonne famille juive.
Exactement. Et donc j'avais tout préparé pour cet anniversaire surprise. Et le matin, pour tester notre matériel, écoute bien, c'était vraiment pour tester notre matériel, et notamment notre nouveau scanner coronaire, j'ai demandé à notre collaborateur qui est spécialiste en imagerie en coupe, en scanner, mais qui est également cardiologue interventionnel, je lui ai demandé de me voir avant le premier patient, donc à 7h30, je passe sous le scanner, et bon, scanner, parfait, mon ami me dit, écoute, c'est bien, jusqu'au moment où il dit, oh là, oh, attends, écoute, là, tu as quelque chose de terrible. Tu as ce qu'on appelle une sténose préocclusive. Alors, une sténose, ça veut dire un rétrécissement d'une artère. Préocclusive, c'est-à-dire qu'elle est à deux doigts ou à deux minutes de se boucher. C'est une des trois artères principales du cœur, du myocarde, plus précisément. Bref, j'étais à une minute ou un mois ou un an, mais on ne peut pas savoir, d'avoir une occlusion de cette artère. Et, bien entendu, l'infarctus du myocarde qui aurait pu mal se terminer. Comme c'était l'anniversaire des 50 ans de mon épouse, j'ai voulu lui faire un cadeau, le meilleur cadeau que j'avais en ma possession, c'est un mari en bon état. Donc j'ai demandé à mon collègue, tout de suite, comme j'étais à jeun, de passer au bloc opératoire, et il m'a dilaté l'artère en question. C'est de la plomberie, toute simple, et il a mis un stent, qui a un petit ressort, qui a maintenu cette artère en bon état. J'ai pu sortir très rapidement, puisque maintenant on fait ces procédures en ambulatoire. Et le soir même, j'assistais et j'organisais l'anniversaire de mon épouse. Évidemment, je ne lui ai pas dit tout ce qui s'était passé durant cette journée. Je ne lui ai dit que quelques jours plus tard. Mais bizarrement, on peut me poser la question, oui, mais on a dilaté une artère qui n'avait peut-être pas se boucher. Oui, tout à fait, mais la tête se bouche. Et en l'occurrence, ce que depuis des semaines je prenais pour une hernie atale, j'avais des espèces de douleurs gastriques, que j'avais étiqueté moi-même, comme tout cordonnier, j'étais mal chaussé, j'avais étiqueté ça hernie atale, et je traitais ça par le mépris et un petit peu d'antiacide gastrique. Mm-hmm. D'ailleurs, ça ne marchait pas. Bah, bizarrement,
c'était pas un reflux.
Oui, c'était pas un reflux, c'était de l'angine de poitrine, une forme intestinale ou digestive d'angine de poitrine, puisqu'après la dilatation, toutes ces douleurs ont disparu. Ça m'a permis de prendre conscience de ma mauvaise hygiène de vie. J'ai perdu 12 kilos, je me suis remis au sport, etc., etc., etc. J'ai modifié mon mode de vie. Et voilà, cette histoire date d'il y a 6 ans et actuellement, je vais très bien.
Et tu fais du surf sur les plages françaises.
Sur les plages du sud-ouest, exactement, avec mes 4 enfants.
Bon, ben, en tout cas, puisqu'on est rentré dans ta vie personnelle, Yves, comment t'es venue l'idée, la vocation de devenir médecin cardiologue?
Cette vocation, je pense qu'elle existe, comme je te le dis, chez pratiquement tous les enfants en général, mais aussi particulièrement chez les enfants juifs, je pense. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, constitutionnel. Mais moi, particulièrement, ça m'est venu aussi avec toutes les femmes qui ont entouré ma petite enfance, ma mère, ma tante, mes deux grands-mères, dont beaucoup parlaient arabe, d'autres ne parlaient même pas français. Et souvent, dans leurs conversations, et quand elles me parlaient, elles m'appelaient Kalbi, mon cœur, en arabe. Donc, j'aime à penser que c'est ce mot-là qui m'a orienté particulièrement vers la cardiologie. Vers la médecine, c'est tout le temps, depuis tout petit. Je me souviens que je disais avec un mauvais français à ma tante, ma mère et mes deux grands-mères, quand je serai grand, je te soignerai. Donc c'est vraiment une vraie vocation que j'ai eue dès l'enfance et je n'ai pas hésité à me tourner vers des études de médecine, alors que j'étais plutôt prédisposé vers des études scientifiques, de mathématiques ou de physique, ce qui aurait bien plu à mon père, d'ailleurs. Mais je suis très heureux, et je pense que c'est le cas pour beaucoup et pour toi aussi, de faire ce merveilleux métier qui, justement, nous permet d'avoir des relations et de bonnes relations au quotidien et donc de préserver notre santé, notre longévité et notre cœur.
Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, docteur Yves Elbez. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous conseille vivement cet ouvrage passionnant d'un cardiologue passionné et qui délivre vraiment d'importants messages de prévention et de dépistage des maladies cardiovasculaires. Donc, 5 minutes avant l'infarctus aux éditions Marabout, disponible dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Merci beaucoup, Yves.
Merci, Jonathan.
À bientôt. On passe à présent à la dernière partie de notre émission. Elle sera consacrée aux actualités qui ont animé notre association ces derniers mois et nous parlerons également des manifestations à venir. Très brièvement, deux événements ont animé l'association ces deux derniers mois. La MIF s'est associée à la campagne nationale de la Tzedaka lors de son petit déjeuner avec Tsivia Valden. C'était le 9 décembre dernier, c'est la fille de Shimon Peres. Elle est venue nous présenter le livre testament de son père « Aucun rêve n'est impossible ». Dimanche dernier, Hadassa France et la MIF ont organisé la 6e édition des rencontres de Hadassa avec un invité prestigieux puisqu'il s'agit du docteur David Kayat, professeur David Kayat, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, L'Enquête Vérité. Ça s'est déroulé à la mairie du 16e arrondissement. Et le professeur Kayat a su expliquer avec des mots simples toute la cancérogenèse tout en diffusant des messages de prévention. Et puis dernier événement qui a animé l'association le 9 janvier 2019, c'est une soirée de formation sur le repositionnement des médicaments, une nouvelle stratégie en recherche médicale dans la maladie d'Alzheimer. C'était avec le professeur Jacques-Éric Gothenberg, qui est chef de service de rhumatologie au CHU Haute-Pierre. C'était l'occasion pour la MIF de découvrir le travail remarquable du docteur Marc Cohen, médecin gériatre et qui est également le directeur du pôle prévention santé à Lozé. Nous avons inauguré le centre d'accueil de jour Jacques Beau et Margot Cohn, centre qui accompagne les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et des maladies neurodégénératives. Quand on parle d'Alsace, il est jamais trop loin. Nous sommes en ligne avec le docteur Georges Fabrice Blum, professeur à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse et qui est également le vice-président de la MIF. Bonjour, bonsoir Georges Fabrice.
Bonsoir.
Alors, tu vas nous parler du congrès de l'AMIF à Tel Aviv, hein, on en a parlé tout à l'heure, congrès qui se déroulera du 29 au 30 mai 2019 en Israël et qui réunira une centaine de praticiens. Alors, il y a de nombreuses thématiques qui sont prévues pour ce congrès, notamment une grande session sur la prise en charge médicale et sociale des survivants de la Shoah, on en a parlé dans la dernière émission, et j'aurai le plaisir d'animer avec le docteur Bruno Aliwa une session à cette occasion. Mais nouveauté, cette année, et ça c'est grâce au travail et au concours de Georges-Fabrice Blum, on aura une session plénière sur la prise en charge médico-chirurgicale et psychologique des attentats, session que tu animeras et qui sera sous l'égide de l'ambassade de France. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Tout à fait. C'est une commande en fait de Madame l'ambassadeur de France, Madame Hélène Le Gall, que nous avions rencontrée l'année dernière du congrès de l'AMIB de 2018. Elle nous avait passé commande de faire cette session un peu extraordinaire sur la prise en charge des attentats, tant sur le plan chirurgical que médical que psychologique, en comparant les pratiques françaises et israéliennes. Les Israéliens sont des gens qui sont très rodés à ce genre de problème. On a des attentats régulièrement, malheureusement, en Israël, et en 10 minutes après, toutes les personnes sont de nouveau à leur travail, sans aucun problème. Donc, ils ont une façon de faire qui est remarquable, et nous avons essayé de faire venir les spécialistes français, les spécialistes israéliens en ce domaine. Et nous avons eu la chance de pouvoir avoir les principaux acteurs qui ont été sur les terrains d'opération en France, notamment lors des attentats du Bataclan, à savoir le docteur Fabien Trabold, qui est le médecin colonel des pompiers et qui est aussi médecin colonel du 10-68, le médecin général Pontiès, qui est un chirurgien des armées, qui a pris toute la phase chirurgicale, et puis la partie psychologique a été faite par le médecin général, le professeur Clairvoy également. Et en Israël, on a également le pendant, à savoir M. Lachlan, qui est directeur adjoint du Bureau international des Magen David Adom en Israël. Et on a le professeur Yoram Klugler, qui est la personne la plus renommée dans le monde en ce moment pour ses problèmes de traumatisme d'urgence. C'est le président de la Société mondiale de chirurgie d'urgence et traumatologie, qui est également le directeur du département de chirurgie de l'hôpital Rambam. Ensuite, deux psychologues israéliens seront là, Rachel Israel et M. Israël Bernard Feldman. Donc voilà cette journée qui s'annonce absolument très intéressante le mercredi 29 mai et qui se passera à l'Institut français de Tel Aviv.
Ça promet une très belle session, Georges-Fabrice. Peut-être un mot sur la soirée de gala que tu as organisée, qui attend les participants du congrès dans un lieu assez prestigieux qui a déjà accueilli David Ben-Gurion ou Golda Meir.
Tout à fait. Nous avons eu la chance d'avoir la résidence de l'ambassadeur à Tel Aviv, qui nous met sa résidence à disposition également pour le soir, où nous ferons une soirée de gala particulièrement chic, avec des invités, certes nos conférenciers, certes les participants, mais également nombreuses participations, je pense, du monde politique, médical et politique israélien. Nous attendons une soirée absolument mémorable dans la résidence de l'ambassadeur à Tel Aviv.
Merci beaucoup, docteur Georges-Fabrice Blum, vice-président de la MIF et l'organisateur du congrès du 29 et 30 mai à
J'espère
Tel Aviv.
Que nous aurons beaucoup de participants pour ce beau programme. À bientôt.
Voilà, merci, à bientôt. Alors, pour s'inscrire, chères auditrices, chers auditeurs, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site internet de la MIF, www.amif.com. Il y a un onglet qui est prévu pour le congrès 2019. Vous pouvez également envoyer un email à contact@amif.com, contact@amif.com. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a un numéro de téléphone qui est prévu, le 06 55 67 21 92. Voilà, pour conclure cette troisième et dense partie, je vais annoncer simplement les deux prochains événements qui vont animer la vie de notre association. Donc on a parlé à l'instant du congrès du 29 et 30 mai 2019, mais deux prochains événements assez rapides. La soirée du 18 février 2019, soirée exceptionnelle de formation aux soins et secours d'urgence que l'on organise avec le Magen David Adom France. Une soirée de formation où vous pourrez notamment vous sensibiliser aux conduites à tenir devant les situations d'urgence les plus fréquentes, dresser un bilan clinique rapide, évaluer la gravité des situations d'urgence, ou bien encore connaître les pratiques de gestes de secourisme. Voilà, donc pour vous inscrire, c'est assez simple, www.amif.com. Vous pouvez également téléphoner au Magen David Adom France au 01 43 87 49 02. Autre grand événement qui animera la vie de notre association, c'est le dimanche 24 mars 2019, en présence du président d'honneur de la MIF, le docteur Élie Buzyn. C'est le voyage de la mémoire de la MIF, une centaine de médecins, infirmiers, étudiants en médecine, élèves infirmiers, aides-soignants de la région parisienne, mais également de toute la France, seront présents pour ce voyage de la mémoire qui est destiné aux soignants de demain et qui seront confrontés aux défis éthiques du futur. Ce voyage de la mémoire s'inscrit évidemment dans les multiples actions que la MIF met en place pour sensibiliser la communauté médicale et paramédicale sur la Shoah. Voilà, il faut tout de même préciser que ce voyage bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors pour vous inscrire à ce voyage, c'est très simple, pareil, toujours pareil, s'inscrire sur www.amif.com. Vous avez également le numéro de téléphone suivant, le 06 55 67 21 92. Chers amis, cette émission du 6 février 2019 touche à sa fin. Elle était assez dense et chargée, en tout cas assez passionnante. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition des Rendez-vous de la MIF.
Les Rendez-vous de la MIF, présentés par le docteur Jonathan Taïeb.